Merci Célia pour cette communication très dense qui revient, qui nous montre plutôt une nouvelle interprétation de ce que le genre apporte à l'étude du rap et du hip-hop. J'ai envie de vous demander ce qui distingue ce domaine artistique des autres domaines, qu'est-ce qui les distingue en termes de différenciation entre hommes et femmes, et là aussi ce que signifie la féminité dans les désignations ou les concepts que vous utilisez sur féminité. Mais on donne la parole au public, on prend une liste de questions, comme pour les séances précédentes.
Thank you, Peace, and thank you for this fine presentation. I'll ask in English because that's kind of all I can do. Maybe somebody can translate. I'd like to maybe add another dimension, which fits in, of course, with this intersectionality notion is age. And if we talk about sexism and all the other isms that we look at when we're talking about hip hop and rap and the like, let's think about ageism. And so, of the, you know, the images, not the, the full-on clips of the, you know, the male or the female gaze, you know, this is conjectural, and the analysis, you can carry it through, but there's no question that that gaze is a young gaze. It's young eyes looking at those bodies in a particular kind of way, and we can think that in, you know, 20 years, those bodies are not going to look like that. And the interest in looking at them is not going to be the same. You know, so that's the reality, I think, of the, you know, the media and the society we're in. Similarly, the, you know, for Kevin, the question, you know, a gangster, an OG, you know, can kind of age with veritas and class and, you know, maintain a status. Old bitch, I don't know, man. You know, people have a different attitude to women aging. And what, you know, can a woman still claim and reclaim and appropriate the notion of the bitch when she's busy being a mom, right? So I think age really is a factor that, that maybe wants to enter into the discussion.
Peut-être juste pendant, je traduis rapidement pour les gens qui n'auraient pas compris. Donc Murray voulait ajouter à cette approche d'intersectionnalité la question de l'âge. Et voilà, il questionne le fait que ce regard, qu'il soit homme, femme, etc., c'est aussi un regard essentiellement jeune. Et voilà, il pose la question de ces corps féminins et est-ce que ces filles continueront à jouer les figures de la bitch quand elles seront occupées à être en même temps des mamans. Et voilà.
Oui, merci pour cette présentation. Juste une question factuelle, peut-être je dirais à Cécile. Vous avez assez souvent évoqué un ensemble de modalités importantes, moyennes, faibles, relatives, par exemple à l'attouchement personnel ou à ce que vous avez appelé l'exhibition fragmentée. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite idée des seuils que vous avez utilisés pour définir ces différentes modalités?
Oui. Oui, question pour Kevin, ici. Donc, juste me demander le rôle que vous donniez à JJ Fad dans cette histoire, étant donné que, par exemple, Jerry Heller voit vraiment JJ Fad comme ayant ouvert la porte à NWA, à tout le phénomène gangster, c'est-à-dire Ruthless Records n'aurait tout simplement pas eu l'ouverture du marché qu'il aurait pu avoir sans Supersonic, sans JJ Fad. Donc, quel rôle ça joue?
Bonjour et merci pour ces interventions. Une question pour Marion. Sur les 14 ou 15 années de l'échantillon, pardon, j'ai raté 5 minutes de l'intervention, alors peut-être que vous avez répondu à la question que je vais poser. Mais bon, sur les 15 ans de l'échantillon 2000-2014, est-ce que vous avez constaté une évolution? Donc, par exemple, donc, est-ce que cette qualification de populaire et altérisée et constante. Moi, j'ai en tête les danseurs hip-hop pour lesquels on a pu voir dans une analyse des articles du Monde qu'à partir, par exemple, pour une période antérieure, à partir du moment où il y a eu beaucoup de subventions et les grands festivals, il y a eu un changement du discours et qu'il y a un discours plus sur l'aspect artistique et beaucoup moins sur les caractéristiques socio-démographiques à partir d'un certain moment. À partir de ce moment-là, est-ce qu'il y a un changement de ce style-là ou d'un autre type qui intervient là?
Je vais répondre alors, sur deux questions qui pouvaient me concerner. Sur la question de la fréquence, sur les modalités, l'idée de dire qu'en moyenne, un clip dure 3 minutes, donc une fréquence faible correspond à moins d'une minute de présence à l'écran, une présence moyenne entre 1 minute et 2 minutes, et une présence importante à plus de 2 minutes. Ça, c'est vraiment pour la fréquence en termes de fréquence vraiment à l'écran. Sur la question de l'âge, moi, sur mon corpus, l'âge a finalement... Oui. La majeure partie des clips du corpus ne duraient pas 6 minutes. C'est quand même des clips qui sont relativement formatés. C'est les 50 meilleures ventes par semaine aux États-Unis. Donc, ça reste des clips, en général, assez formatés. Le hip-hop dit alternatif n'est quand même pas très présent dans ce type de clip. Et la plupart des clips sont en moyenne autour de 3 minutes 30. Il y a très peu de clips plus longs que ça. Hein. Sur la question de l'âge, après du coup peut-être que du coup les autres ont un avis un peu différent sur la question de l'âge. Je sais que moi sur mon corpus, l'âge a été une variable finalement qui a pas du tout compté, parce que la plupart des artistes, il y a quasi moins de 5% du corpus qui correspondent à des artistes qui auraient quelque part au-delà de 35 ans. Mais si on voit, il y a quand même un certain nombre d'artistes qui sont assez présentes, pas forcément depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, comme c'est le cas par exemple de Janet Jackson. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'artistes qui sont là depuis au moins les années 90 et qui sont dans le top depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, comme des artistes comme Kesha Cole qui est là quasi tous les ans, ou Mariah Carey qui est là depuis très très longtemps. Il n'y a pas une différence du tout, il n'y a pas d'évolution de représentation pour elles. Leur représentation de jeunesse n'a pas du tout vieilli, ce qui fait que ça peut valoriser ou confirmer l'idée qu'effectivement il faut se conformer encore à son image de jeunesse et que les artistes ne vieillissent pas, mais ce qui est assez frappant.
Pour répondre à l'âge et à la question de l'âgisme, en fait, ça rejoint aussi une question que tu m'avais posée sur les liens avec le black feminism. Belle Hooks avait fait une interview avec Lil' Kim après la sortie de Hardcore, dans laquelle elle lui disait que les critiques les plus dures qu'elle entendait par rapport à Lil' Kim, justement, en fait, c'était les femmes les plus âgées. Donc cette question des liens générationnels, en fait, peut-être entre Lil' Kim et le black feminism, par exemple, il se trouve là aussi sur la question de l'âge. Le fait que c'est pas la même chose, par exemple, la première génération, la génération historique du black feminism n'a pas le même rapport au hip-hop que Joan Morgan, par exemple, qui a fondé, en tout cas, qui a donné l'expression féminisme hip-hop. Là, c'est une nouvelle génération de féministes africaines-américaines, plus jeunes, qui sont nées avec le hip-hop et donc qui, en général, ont un regard davantage bienveillant envers ces personnages. Mais les liens, alors après il faudrait voir quelles artistes féminines se définissent comme féministes. Je pense que pour un certain nombre de raisons, il y en a relativement peu, parce que le féminisme est associé à la blanchité, tout simplement. C'est en train de changer avec des artistes comme Beyoncé, avec Princesse Nokia, etc. Mais voilà, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas tenir un discours féministe sans se dire féministe soi-même. Lil' Kim fait l'objet de plein de lectures féministes, par exemple. Et pour répondre à Murray sur comment... La question de l'âge, effectivement, c'est tout à fait vrai. Je pense que c'est plus dur de vieillir quand on a adopté en fait, la posture de la bitch dans le rap. Forcément qu'à un moment, on a du mal à imaginer Lil' Kim aujourd'hui faire la même chose. Et d'ailleurs, ses carrières durent. Lil' Kim a une longévité qui est quand même d'à peu près 10 ans, ce qui est au moins autant que les rappeuses de la génération précédente. Foxy Brown, c'est à peu près pareil. Enfin, en gros, c'est de 96 à 2000, 2003, 2004, 2005, où là, clairement, il y a Rémi Ma qui apparaît, puis Nicki Minaj, et donc toute la génération précédente tombe dans l'oubli un petit peu, ou en tout cas, ne sort plus rien. Mais oui, clairement, l'âge joue, sans que je sois certain que ce soit uniquement parce qu'elles avaient adopté cette posture de la bitch. Queen Latifah, MC Light, etc., c'est pareil, leur carrière dure 10 ans, et après, il y a une nouvelle génération qui apparaît, qui prend le relais. Les rappeurs gangsta, Dr. Dre par exemple, Ice Cube, etc., ils durent, mais ils durent aussi parce qu'ils sont reconvertis, ils sont acteurs, producteurs, et en fait souvent ça passe par le fait de se tourner vers la production. C'est peut-être ça qui fait que je pense quelqu'un comme Nicki Minaj pourrait durer peut-être un peu plus longtemps, parce qu'elle a l'air d'avoir conscience de ça, et elle se tourne davantage vers la production, donc sans doute qu'elle va négocier un tournant d'image à un moment. Mais évidemment la question de l'âge joue beaucoup, à la fois dans le rapport qu'on a à ces artistes, mais aussi dans la façon dont ces artistes elles-mêmes peuvent durer, peuvent se mettre en avant, etc. Et sur la question,
C'était juste sur l'âge, parce que moi aussi, ça joue dans mon corpus. Alors, c'était juste pour dire. C'est que moi, c'était un facteur qui valorise certains rappeurs, et notamment masculins, et notamment sur les rappeurs des premières générations et du type Public Enemy et NTM, où là, il y a vraiment le journaliste qui va dire oui, de toute façon, maintenant, ils se sont assagis avec l'âge, ils sont moins fauteurs de troubles, etc. Ils ont un discours politique beaucoup plus policé. Et il y a, par exemple, je me souviens, une interview de Cool Chain où le journaliste mettait en scène que oui, maintenant Cool Chain il trouve qu'il y a des gens bien chez les flics, et en associant ça avec le fait que son âge, la quarantaine passée, il s'est assagi, que maintenant il avait un discours beaucoup plus nuancé, et du coup c'était vraiment utilisé pour valoriser les rappeurs en fait.
Avec la question sur JJ Fad, quel rôle je lui donne, en fait, très honnêtement, je lui donne pas de rôle, mais parce que je travaille pas directement sur NWA, le rôle que je vais donner sera davantage aux industries culturelles, à l'introduction du SoundScan en 1991, sur le fait qu'on a de nouveaux outils pour mesurer le fait qu'en fait, le gangsta rap, il y a eu des précédents, NWA invente quelque chose, mais il y avait d'autres choses, notamment sur la côte Est, mais en gros, moi, j'analyse davantage ça comme le fait qu'on a de nouveaux outils. On se rend compte qu'en fait, ce que Tricia Rose appelle la jeunesse mainstream, donc le public adolescent blanc de la classe moyenne, aime beaucoup le rap, et notamment le rap le plus violent, ce qu'il perçoit comme étant le rap le plus misogyne. Et donc, selon moi, c'est davantage ça qui fait... Enfin, je m'intéresse davantage à ça.
Oui, j'avais pas répondu à ma question, désolée. En fait, sur l'évolution sur 15 ans, alors moi, dans mon corpus, j'ai pas eu de choses sur la danse, c'était vraiment juste sur le genre musical rap. Alors, il y a pas vraiment de, par rapport justement à l'altérisation ou l'ethnicisation à la fois des classes populaires blanches ou l'ethnicisation qui va servir à marquer la race, il n'y a pas vraiment d'évolution, en fait, c'est quelque chose qui est récurrent depuis 15 ans. Néanmoins, il y a une évolution où on voit bien qu'il y a quand même un avant et un après émeute, enfin, avant et un après novembre 2005, où il y a quand même, par exemple, je ne sais pas, dans les cadrages là, que j'ai présentés sur le rap en tant qu'il pose problème à la société et le rap en tant que vecteur politique, etc., là, il y a un avant et un après, c'est-à-dire qu'avant 2005, il y a beaucoup plus d'articles rendant compte du rap qui pose problème à la société, et après ça bouge où finalement les articles classés sous le cadrage le rap en tant que vecteur d'émancipation politique va être plus fort, et aussi il va y avoir peut-être plus de manière de valoriser certains rappeurs, et je dis certains, après 2005, mais du coup il y aura quand même ces mêmes processus d'ethnicisation très fort à l'œuvre de 2000 à 2015.
Bonjour. Oui, moi j'ai deux questions. C'est quel est votre lien avec le hip-hop et comment vous vous sentez après votre intervention ? Voilà.
Oui, bonjour. Enfin, bonsoir. Je ne sais pas s'il faut dire bonsoir ou bonjour. Moi, chez moi, on dit bonsoir. Je ne sais pas si j'ai raté quelque... parce que je n'étais pas là tout le temps. Ce que j'aimerais savoir d'abord, si c'est bien ce que je pense... Est-ce que vous êtes en train de dire pour la plupart d'entre vous que le fait que les femmes se dénudent dans les clips, les rappeuses, c'est une façon de se révolter contre la misogynie ? Est-ce que c'est le féminisme qui s'incarne par la DSAP ? Si c'est le cas, si effectivement il y a eu cette analyse... Pour moi, que ce soit les garçons comme les filles qui se dénudent dans les vidéoclips, c'est tout simplement pour vendre des disques. Je ne crois pas qu'il faille chercher plus loin que cela, c'est mon avis personnel. Je conçois mal qu'on puisse en tout cas être féministe et qu'on résolve ce problème-là par le dénudement. Voilà, en se mettant à poil dans un vidéoclip. Quoi. Voilà. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut combattre la misogynie en faisant tout simplement ce que l'homme attend qu'on fasse. Parce que je crois bien que ceux à qui on prête des propos misogynes, c'est exactement ce qu'ils font. Ils mettent les femmes dans des situations de dénudement. Voilà. Donc j'aimerais bien comprendre. Peut-être que je n'ai pas bien compris. Merci.
Bonjour, bonsoir. Ma question est pour Kevan et elle est un peu longue, du coup je l'ai écrite parce que je ne voulais pas me gourer. Vous avez évoqué l'influence du black féminisme dans le développement du rap féminin et de ses revendications. Vous avez aussi cité Butler dans la réappropriation du terme bitch comme procédé qui est normalement encouragé par les mouvements queer. Et vous avez aussi dit que Lil Kim fait objet d'études féministes. Ce qui m'interrogeait alors, c'était que quand vous avez dit que les rappeuses gangsta mettent en avant un autre type de féminité et que certaines disent ne pas être des femmes comme les autres, ça produit en fait un autre rapport hiérarchisant dans le genre. Et c'est-à-dire qu'il y a une féminité cool qui reprend des aspects de la masculinité et une féminité qui n'est pas cool, plus traditionnellement parlant. Et en fait, je me demandais si à cette période que vous avez analysée historiquement, il y avait des rappeuses qui refusaient ce récit et refusaient en fait de mépriser un certain type de féminité ou pas.
Oui, alors je vais essayer de faire court. Donc déjà, merci beaucoup pour les trois présentations que j'ai trouvées vraiment trop passionnantes. Et donc ma question va à Kevan également. En fait, dans ma recherche, quand j'ai rencontré les rappeuses, en fait, la figure de la bitch était souvent un point de référence par rapport auquel on se positionnait pour décrire ses pratiques artistiques, et dont une qui me trouvait intéressante, en fait, elle critiquait pas les bitches à l'aune des codes esthétiques que tu as décrits, parce qu'en plus, elle en mobilisait certains, mais plutôt à l'aune de leur individualité, du fait que du coup, qu'elles n'étaient pas dans un processus de solidarité entre filles qui font du rap, et à l'aune corrélée à ça, du fait que leur stratégie pour réussir était basée sur le fait d'être le proche d'un rappeur, un peu pensé comme leur pouliche, comme par exemple Lil Kim et Notorious B.I.G. Et je voulais savoir comment ça apparaissait aussi comme code esthétique finalement dans ton travail.
Alors je vais répondre peut-être... Je vais commencer par répondre à Claire en fait sur la question justement de la figure de la bitch qui est un... La figure de la bitch qui serait un référent par laquelle on se positionne de manière, en gros, soit on la rejette, soit on l'adopte. Je pense qu'il y a un contexte états-unien qui est particulier déjà. Enfin, je veux dire, en France, par exemple, dans le rap féminin, on n'a pas observé. Enfin, il n'y a pas de Lil Kim dans le rap féminin, à part peut-être Shai qui est en train d'apparaître. Voilà, où il y aurait peut-être des choses à regarder de ce côté-là, mais sinon, je pense qu'il y a un contexte particulier qui est le contexte états-unien, qu'il faut prendre en compte à chaque fois. Sur le fait qu'en fait, la figure de la bitch, ce serait justement, ça supposerait une absence de solidarité ou une absence de sororité. En fait, je vois l'idée, mais en même temps, je veux dire, la sororité dans le rap féminin états-unien, par exemple, que j'analyse, la plupart des rappeuses se plaignent du fait qu'il n'y a pas eu suffisamment de solidarité féminine. Et je veux dire, y compris des Queen Latifah, y compris des MC Light, etc., disent, en fait, voilà, à cause de la place particulière qu'on a dans le rap, qu'on est minoritaire, que les hommes aussi, enfin, notre entourage masculin nous pousse à être dans un rapport compétitif, etc., fait qu'il n'y a pas de solidarité féminine. Ce qu'on observe, par contre, avec Lil Kim, par exemple, c'est que Lil Kim, Not Tonight, enfin, il y a quatre rappeuses en même temps dans un même clip. Et pas que des rappeuses qui sont sur le même positionnement qu'elle. Elle a une amitié avec Queen Latifah alors qu'elles sont sur deux lignes qui sont a priori totalement opposées. Donc voilà, à côté de ça, effectivement, et pareil, avec Foxy Brown, elles avaient de très bons liens avant que ce soit leur entourage masculin qui les, en gros, qui les ligue l'une contre l'autre, quoi. Donc voilà, je pense que la solidarité est possible indépendamment de ça. C'est pareil, d'autres rappeuses, même si c'est pas forcément directement sur cette ligne-là, mais... Dabrat, par exemple, pareil, qui a des liens avec d'autres rappeuses. Enfin, je pense que le fait de se définir comme bitch ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y aura pas de sororité. Sur le fait que, effectivement, le fait de se définir comme bitch, assez souvent, en fait, fait qu'on est dans un entourage masculin et qu'il y a une sorte de figure un peu d'autorité masculine. B.I.G., par exemple, pour Lil Kim. Mais c'est un peu le cas pour quasiment toutes les rappeuses. Enfin, on pourrait dire la même chose de Yo-Yo et Ice Cube, par exemple. Où voilà, il y a. Et je pense que c'est une façon de voir les choses, de dire. C'est ce qu'on entend assez souvent. En fait, ce seraient des rappeurs qui décident quelle femme a le droit d'être mise en avant, etc. Bah, en fait, ça c'est une réalité. Encore une fois, depuis le début du rap, malheureusement, ce sont les hommes qui dominent à quasiment tous les niveaux dans la production rap. Donc, ils ont un contrôle. Enfin, ils ont un pouvoir de sélection, de promotion, etc. Donc ça joue, mais à côté de ça, quand B.I.G. est mort, Lil Kim a continué sa carrière, elle a continué à avoir deux disques d'or derrière. Enfin voilà, et c'était pareil, l'idée que en fait elle durait sa carrière que à Biggie Smalls, c'est relativement faux. Elle s'en amuse d'ailleurs dans The Notorious Kim, donc où même là elle rend hommage à son mentor, mais elle dit en fait maintenant qu'il est mort, qui est-ce qui m'écrit mes textes? Et donc, il y a cette idée quand même que, enfin, elle s'amuse là-dessus. Elle ne doit pas sa carrière à Biggie Smalls, même si, bien entendu, il y a des effets de promotion qui jouent. Je ne sais pas si... Je vous laisse peut-être répondre aussi si vous avez des trucs là-dessus. Ouais. Ou je réponds peut-être juste rapidement sur, du coup, l'influence du black feminism et ce qui répondra aussi à la question de se dénuder ou pas, mais je pense que je laisserai aussi répondre. Le fait que... effectivement le gangster rap féminin ou le rap féminin hardcore produirait un autre rapport à la féminité, qu'on jugerait d'une certaine façon d'autres types de féminité, sans doute, mais aussi parce que je pense que d'une certaine façon, si on est féministe ou si on a un comportement féministe, c'est qu'on considère que les normes dominantes ne sont pas satisfaisantes. Et je pense que Lil' Kim, qu'elle se définisse féministe ou non, il y a de ça, et c'est un peu ce qu'on retrouve assez souvent. Ce rapport hiérarchique, en fait, de fait, il est présent dans le... Enfin, voilà, pareil, on pourrait remonter à la... je sais pas, plein de choses. La politique de la respectabilité, par exemple, contre laquelle Lil' Kim s'inscrit, mais qui est présente, où d'un côté, on va dire aux femmes noires, puisqu'il y a toute l'histoire des représentations hypersexualisées héritées de l'esclavage, surtout, il faut montrer qu'on est intègre d'un point de vue moral, etc. Donc, il ne faut surtout pas se dévêtir. Lil' Kim est complètement contre ce type de politique, mais... Oui, il y a clairement, je pense, un mépris pour un type de féminité que connaît, pour reprendre les termes que tu employais, la féminité accentuée, celle qui est, en gros, accepte l'ordre établi, qui se montre complice de l'ordre patriarcal, par exemple. Je pense que assez clairement, Lil' Kim et la plupart des rappeuses, elles méprisent ce type de féminité. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un type de féminité. Si on regarde, par exemple, Queen Latifah et Lil' Kim, elles ont des très bons rapports. Pourtant, c'est deux types de féminité totalement différents. Et Queen Latifah, par exemple, dit elle-même qu'elle ne juge absolument pas Lil' Kim qui se dénude. Enfin, elle n'a rien à lui dire. Si elle souhaite le faire, elle le fait. Aucun souci, mais elle-même ne le fera pas. Mais il n'y a pas forcément de jugement de valeur. Par contre, avec un type de féminité particulier défini par la blanchité, par la douceur, etc. Enfin, là, oui, clairement, ça juge.
Oui, moi, je vois, enfin, sur ce que tu viens de dire, moi, je vois la même chose aussi sur, justement, il y a une disqualification de certains types de féminités qui sont plutôt des féminités qui sont racialisées, notamment l'hyper-féminité. Et du coup, en creux du discours, hein, c'est une manière de valoriser une féminité qui est associée à la blanchité. Et du coup, la question, c'est pas de savoir si c'est féministe ou pas féministe, c'est plutôt... Enfin, moi, je sais que je vais m'intéresser au sens que donnent, en fait, les médias ou les journalistes au travers d'artistes ou de rappeuses dans ce cas-là. Et finalement, c'est que les médias vont pas interroger ces artistes pour savoir le sens qu'elles-mêmes donnent à cette performance de féminité. C'est qu'il y a une... En fait, il y a plutôt une qualification de la part des journalistes. Et du coup, moi, c'est cette qualification qui m'intéresse. Et du coup, j'ai envie de dire le fait que... Enfin, pour moi, cette qualification, elle est porteuse de rapports sociaux de race, en fait. Parce que du coup, ça disqualifie ce type de féminité en valorisant une qui est plutôt associée à la blanchité.
Je vais continuer dans ce sens-là et au passage, je répondrai à la question sur comment je me sens. J'attendais qu'il y ait la question sur le féminisme, le rapport à la misogynie, donc merci de poser la question. Ça me permet d'expliquer du coup que je suis un peu révoltée et d'humeur très provoque du coup. Mais je pense qu'il faut essayer de détacher le féminisme avec cette question de la misogynie, etc. Je pense que, après, c'était un peu l'idée de la recherche, mais c'est de montrer que l'exhibition, le dénuement ou la sexualisation féminine et pas uniquement l'objet des hommes, l'objet du fantasme masculin. On peut être une femme, avoir envie de se dénuder, avoir envie d'apprécier sa féminité. Je pense que l'objectif de la recherche, c'était de prouver que justement l'exhibition et la sexualité dans les clips, elle est strictement détachée aujourd'hui du regard masculin, strictement détachée des thématiques misogynes et sexistes masculines. Je suis contente qu'il y ait des hommes qui soient un peu bienveillants envers nous et notre volonté de trop se désinhiber, mais je pense réellement qu'il faut... Enfin, c'est fausser le débat que de penser que se sexualiser ou se dénuder, c'est nécessairement prouver que on répond aux envies des hommes. Et je pense que c'est vraiment l'objectif des clips, de prouver que la sexualisation et le dénuement, il est aussi voulu par les femmes et pour les femmes, enfin pour un regard féminin également. Après, là, je parle peut-être d'un point de vue en tant que public, mais je pense que mon rapport au hip-hop, ça répond à l'autre question sur le rapport au hip-hop, mais mon rapport au hip-hop, il a également changé entre, je pense, quand j'étais jeune et que j'écoutais le hip-hop dominant, donc un hip-hop masculin, et en grandissant, en comprenant l'anglais et en comprenant aussi la codification visuelle, j'ai compris que ce hip-hop-là m'était pas du tout destiné. Que le hip-hop féminin m'était bien plus destiné et qu'en tant que femme, je le décode très certainement pas comme vous. Mais je pense qu'il faut arriver à se dire ça. Et sur la définition du féminisme, je pense qu'effectivement, ça en dit long sur vos rapports également au féminisme. Mais le féminisme n'est pas aujourd'hui détaché de la question de la sexualisation. Enfin, je pense que les dernières vagues du féminisme prouvent que les femmes se sont complètement réappropriées aussi ce rapport à leur corps et qu'on peut être féministe et en petite culotte. On peut être féministe et dire assez franchement qu'on aime le sexe et en plus toute forme de sexe. Mais voilà, enfin, bon, je suis un peu d'humeur provoque, c'est la fin de la journée. Voilà, mais...
Comment je me sens? Je me sens bien. Enfin, c'est un plaisir encore une fois d'être dans un colloque sur le hip-hop et avec des gens qui travaillent dessus. C'est rare en fait quand on travaille sur ces objets de se retrouver là et en présence de gens qui connaissent et qui comprennent le hip-hop. Mon rapport à ça, c'est celui d'un fan. Enfin, je veux dire quelqu'un qui a grandi avec ça, qui apprécie. Qui en est venu comme toi en fait à évoluer dans son écoute, à découvrir de nouvelles choses et à continuer à l'apprécier même en travaillant dessus en fait, ce qui est parfois le risque quand on passe sa journée à écouter des morceaux. Enfin voilà, il y a des moments où on a envie de s'en distancier en fait. Non, enfin ça, je continue à apprécier toujours autant. Et pour répondre à la question, enfin voilà, juste rajouter un mot, mais pour aller dans ton sens en fait. Je pense que effectivement, je pense que c'est une image très détachée du féminisme et des différentes façons d'être féministe aujourd'hui. Enfin, mais qui traduit aussi des choses. Enfin, Lil Kim a été aussi beaucoup attaquée, par exemple, par des féministes. Nicki Minaj aujourd'hui, c'est la même façon. Assez souvent, et ça fait le lien avec ce que tu as dit Marion sur le fait qu'en fait, quand elles sont attaquées, c'est la plupart du temps par des féministes blanches, enfin des personnes blanches qui se disent féministes. On peut penser à Lou Doyon, par exemple. Qui se permettait de juger Nicki Minaj en disant ma grand-mère s'est pas battue pour ça ou je sais pas quoi, mais en fait tais-toi parce que tu n'as pas, enfin t'es pas dans cette histoire-là, tu connais pas toute l'histoire qu'il y a derrière la représentation du corps noir. Alors juste un tout dernier mot et je reste là-dessus.
On a vraiment pas de temps. Je suis désolée, vraiment de devoir couper, mais comme il y a déjà eu pas mal de questions d'interaction, il peut encore y en avoir plein et on a des contraintes horaires pour laisser la parole aux concluants.
On va conclure pour laisser la place. Au vrai concluant, merci Kevin pour cette fin de présentation qui nous rappelle, je conclue quand même, qui nous rappelle l'intérêt de prendre en compte que le rap et le hip-hop sont des principaux marqueurs de race, mais que ça ne doit pas nous faire oublier la nécessité d'aborder le sexisme comme un des produits du racisme et de leur articulation notamment. Merci.